C'est la fête de la chair de Saint-Pierre à Rome. Certains d'entre vous, peut-être, qui sait, se demandent qu'est-ce qu'on fête là, la chair de Saint-Pierre, qu'est-ce que c'est que cette chair? Les plus vieux se souviennent qu'on disait monter en chair, c'est-à-dire monter... Le prêtre montait, n'est-ce pas, dans le centre de l'église, dans la chair, on appelait ça comme ça, d'où il prêchait parce qu'il n'y avait pas de micro, c'était pour se faire entendre de tout le monde, eh bien, il fallait aller comme ça dans le centre de l'église en montant très haut. Puis il y avait un abat-voix au-dessus de sa tête, c'est-à-dire une espèce de toit, de couvercle, si on veut, à cet endroit d'où il prêchait pour ramener la voix et se faire entendre de tout le monde. Mais ce n'est pas ça la chair de Saint-Pierre. La chair de Saint-Pierre, c'est la cathédrale dans le sens très ancien du mot cathédrale, qui veut dire une chaise, un fauteuil. Car les dignitaires, et particulièrement les évêques, prêchaient assis. Assis de leur, ce qu'on pourrait appeler un trône aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on va dans les cathédrales, il y a toujours une espèce de trône pour l'évêque, parfois un peu trop décoré à mon sens, mais enfin, pour endurer les choses du passé. Et souvent les trouver belles même, parfois c'est très très beau, c'est magnifiquement fait, dans le genre. Et c'est de là que la parole, donc, de l'évêque, était entendue. Et le ministère principal, fondamental de l'évêque, c'est de prendre la parole. C'est de transmettre la bonne nouvelle, c'est-à-dire de transmettre l'annonce qui a été faite par Jésus-Christ il y a 2000 ans et qui est écrite dans les évangiles et qui est commentée dans les épîtres, les textes des apôtres. Et c'est ainsi que... Aujourd'hui, on fête la chaire de Saint-Pierre à Rome, c'est-à-dire ce trône duquel l'évêque de Rome parle depuis 2000 ans, car les successeurs de Pierre sont considérés par les catholiques comme héritiers non seulement du pouvoir que Jésus a donné à Pierre, mais aussi héritiers du dépôt de la foi, comme on dit, c'est-à-dire de ce qui est transmis dans les Écritures, dans la Bible, et qui est ainsi entre les mains du pape et des évêques et de l'ensemble de ceux qui sont responsables de cette parole. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la chaire de Saint-Pierre à Rome. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parlerai tout à l'heure d'une religieuse extraordinaire, d'une sœur de Saint-Paul de Chartres, mère Candide Cousin, une femme fantastique, exceptionnelle, dans le genre de sœur Rosalie Rendu, que vous connaissez peut-être, qui, au siècle dernier, cette sœur de la charité de Saint-Vincent de Paul, quand elle est décédée, il y avait plus de monde à ses funérailles à Paris qu'il n'y en avait eu quelques jours plus tôt pour le président de la France. C'était, en somme, ce sont des sœurs qu'on pourrait comparer à Mère Thérésa. Je vous ai parlé de Saint-Pierre le 29 juin. Il y a une cassette disponible d'ailleurs. Toute l'émission avait été consacrée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc je ne m'étendrai pas outre mesure, cette fois-ci, puisque ça a déjà été fait. Mais je veux tout de même vous parler que Saint-Pierre a occupé pendant plusieurs années, n'est-ce pas, le siège ou la chaire, si on veut, le trône d'Antioche. Et c'est pour ça qu'il y a des patriarches chrétiens à Antioche, dont certains sont catholiques, comme l'un a été entendu ici à Radio Ville-Marie, à l'émission de Gilbert Charron. Je l'avais conseillé de l'inviter, le patriarche de l'église grecque Melkite, qui est uni au pape. Donc, après avoir triomphé de toutes sortes de problèmes qui surgissaient en Orient, Saint-Pierre, en Orient, c'est-à-dire au Proche-Orient, Saint-Pierre a voulu poursuivre la mission que Jésus lui avait donnée pour sauver les âmes jusque dans Rome. Rome qui était une ville terrible, difficile, une capitale de l'empire du monde à l'époque. C'était le centre d'une espèce d'impiété qui ressemble un peu à la nôtre aujourd'hui, dans ces moments de décadence épouvantable que nous vivons présentement. Et tout ça, ça appelait l'exercice du zèle très courageux de ce Pierre, de ce simple pécheur que Jésus avait choisi. Alors il est venu à Rome pour prêcher l'Évangile, puis il a établi son siège, voyez-vous, son siège épiscopal, comme on dit dans les textes anciens. C'est ça la chair de Saint-Pierre. Comme celui dont les évêques de Rome, dans la suite des siècles, vont tirer leur origine de l'Évangile, de ce texte. « Tu es Pierre, et sur Pierre, je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Il y a, l'autel de Saint-Pierre de Rome, là, sous l'autel où le pape célèbre solennellement, quand il a des grandes célébrations dans la basilique Saint-Pierre, il y a le tombeau de Saint-Pierre, exactement en dessous de cet autel. Il a été découvert sous le règne de Pie XII. C'est Pie XII qui aimait beaucoup l'histoire et qui avait réussi à trouver d'éminents archéologues et des gens extrêmement compétents pour creuser le sol, et finalement ils ont trouvé, sans aucune erreur, le tombeau Saint-Pierre, qui avait été enseveli là, exactement. Je vous laisse là-dessus pour ce qui est du tronc de Saint-Pierre. On peut voir d'ailleurs dans le fond de la basilique Saint-Pierre, dans cette grande sculpture étrange, baroque, du Bernin, je crois, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la gloire, où il y a l'Esprit-Saint, n'est-ce pas, en haut, dans un vitrail. Et sous l'Esprit-Saint, bien, il y a, encastré dans cette sculpture, comme la forme d'un fauteuil, c'est en bronze, mais en dessous de ça, on conserve une relique extraordinaire, mais d'après certains spécialistes, ce fauteuil, cette chair du pape, serait plutôt du 3e siècle que du 1er. Bon, c'est pas si grave que ça, on n'attache pas d'importance à ces détails-là, mais sachons qu'il y a là, en tous les cas, un trône, un fauteuil, duquel des papes ont parlé il y a déjà très, très, très longtemps, avant tous les grands schismes qui malheureusement séparent le christianisme aujourd'hui. Et avant l'apparition de l'islam, tout ça est là, à notre vénération, afin que nous pensions à cette parole de Jésus, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Dans le Prions en Église aujourd'hui, j'espère que vous êtes abonnés à ce Prions en Église quotidien, il est annoncé en ondes à Radio-Marie. N'hésitez pas, même si vous ne pouvez pas aller à la messe tous les jours, au moins vous l'aurez chez vous, vous pourrez lire ces belles lectures. Comme aujourd'hui, c'est une lecture de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre qui dit « Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens, et je suis témoin, il le dit, je suis témoin de la passion du Christ, et je communierai à la gloire qui va se révéler ». C'est pas la gloire dans le sens où on l'entend là, dans le monde. Là. C'est tout autre chose. La gloire, ça voudrait dire la lumière, la sérénité, la joie, le bonheur éternel. Alors au début de ce texte, de la messe, le prier en Église ajoute ceci. La liturgie célèbre aujourd'hui l'établissement à Rome de l'apôtre Pierre vers l'an 60. Voyez-vous, c'est vers l'an 60. Hein? Faisant de Rome l'Église première, comme dit saint Irénée. Irénée de Lyon, dont je vous ai déjà parlé. Cette église qui préside dans la charité, selon saint Ignace d'Antioche, dont je vous ai aussi parlé, ce grand, c'est merveilleux, du tout début de l'église. Dès le début de l'église, vous savez, il y a des saints fantastiques. Vendredi, je vais vous parler de saint Polycarpe. Écoutez bien, vous verrez comme ces évêques étaient magnifiques. Et le texte se termine en disant, « Depuis ce temps, le pape évêque de Rome est le centre d'unité de l'Église du Christ. Or, le pape actuel est vraiment un centre d'unité. C'est un rempart contre la décadence. Oh, il est attaqué de tous côtés. De la gauche, de la droite, d'en haut, d'en bas. Pourquoi toujours cette attaque constante? Lisez à la place d'André Frossard, qui était depuis quelque temps membre de l'Académie française. Et qui est mort il y a un an, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, n'est-ce pas? J'ai consacré toute une émission à André Frossard. Portrait de Jean-Paul II. C'est un livre magnifique, publié chez Robert Laffont. Je viens de lire pour la deuxième fois, ça se lit très 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 bien. Il y a des choses tellement magnifiques, tellement belles dans ce livre, et qu'on n'a pu s'empêcher d'être heureux d'avoir comme père, commun, ce pape. Il dit en page 94, le pape lutte de toutes ses forces contre les dangers du meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Contre les dangers du meilleur des mondes. Et il est bien seul à le faire, avec quelques rares scientifiques effrayés par l'usage qui sera fait demain de pouvoirs acquis dès aujourd'hui sur la matière vivante. Car tout le problème de la biologie, c'est tragique. J'ai assisté à la Sorbonne en 78 à Paris, évidemment à la Sorbonne, un grand congrès de biologie pendant des jours et des jours. Ce que j'ai entendu là m'ont fait dresser les cheveux sur la tête très souvent. C'est tragique. Et passons maintenant, justement, dans cette église catholique, à ce phénomène qu'a été mère Candide Cousin des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Nous avons ici, comme bénévole à Radio Ville-Marie, une sœur de Saint-Paul de Chartres. Elle a travaillé pour le Christ, mère Candide Cousin, en Cochinchine, c'est-à-dire dans la partie sud du Vietnam. Quand elle est morte, on a eu l'impression de perdre l'équivalent de Mère Teresa, au fond. Et on dit dans un texte du 23 février 1921 dans le journal de Saïgon, mercredi dernier, une interminable file d'enfants, deux fois orphelins maintenant, et une longue théorie de religieuses et d'amis émus, jusqu'au plus profond de leur cœur, conduisait la supérieure principale des sœurs de Saint-Paul de Chartres à son lieu de repos. C'était Mère Candide Cousin, ça. Car, enfin, l'heure du repos avait sonné pour cette vaillante femme qui avait tant travaillé, et travaillait encore malgré ses 76 ans. Pendant 52 ans, écoutez bien ça, 52 ans, le soleil des tropiques si dur aux Européens a pu voir une blanche cornette. Elle portait un très beau costume, d'ailleurs, les sœurs de Saint-Paul de Chartres, une espèce de cornette à l'ancienne, là, qui leur donnait fière allure. Hein. Et on les voyait comme des oiseaux, comme des colombes, qui vivaient l'Évangile partout sur la terre. Hein. Mais elles sont disparues, ces colombes, on ne les reconnaît plus. Donc on a pu voir une blanche cornette défier ses ardeurs, comme dit le texte, et aller hardiment dans les chefs-lieux créés tantôt une école, tantôt un hospice, ou un hôpital, ou bien une maternité, un ouvroir, hein, pour apprendre aux femmes de ces régions à coudre, etc. Ou encore une crèche pour élever des enfants, un orphelinat, ou même des léproseries, soit en Cochinchine, soit au Siam, et jusqu'aux Philippines. Vous imaginez-vous une femme au 19e siècle qui fait tout ça? Mais au début de ce siècle, ces femmes-là étaient bien plus grandes que n'importe quelle féministe d'aujourd'hui. Hein? Le texte continue. Qui n'a vu un jour ou l'autre cette grande et digne religieuse aux lunettes bleues, au visage distingué, à l'allure de grande dame, se rendant, simple et pieuse, dans un de ses nombreux établissements pour y remplir l'office de fée bienfaisante? Dans cette course au plaisir de faire du bien aux humbles et de donner des ailes à ses sœurs, en leur laissant comme étrennes un cœur d'or et un courage de fer. Quand on dit ici un courage de fer, si vous lisiez la vie de Mère Candide, vous verriez qu'elle avait plus qu'un courage de fer. C'était un courage incroyable. C'était une femme tellement extraordinaire quand on lit sa vie qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que ça existe encore? Alors je continue la tête dans cette course au plaisir. De faire du bien, Mère Candide savait faire des haltes fructueuses. Alors, deux points. Un bâtiment s'ajoutait à d'autres bâtiments. Une construction s'agrandissait pour devenir une ruche. Puis, quelques vieillards, plusieurs incurables, venaient jouir là du passage de leur mère. Mais déjà, elle était ailleurs, à penser à de nouvelles formes d'apostolat et à calculer encore un de ces bons coups que la charité chrétienne sait inspirer. Donc, Mère Candide pouvait bien gagner enfin son lieu de repos. Et les amis, la figée qui l'accompagnait, représentaient les innombrables vieillards et enfants incurables et orphelins, élèves et maîtresses, qui aussi la pleuraient dans les chefs-lieux de Cochinchine qu'elle avait dotés des œuvres de Saint-Paul de Chartres. En repos aussi, se prie Dieu, où se réalisait le contact de cette âme avec le divin moteur de toute chose, Dieu évidemment, dans cette superbe chapelle qu'elle avait fait construire il y a quelque 25 ans, donc à la fin du siècle dernier, pour obtenir à ses sœurs et à ses novices la grâce qui font la femme forte de l'Écriture. En repos encore ce bureau qui a tant fait de bien par ses lettres de mère, parce qu'elle a écrit beaucoup de lettres, et c'est ainsi qu'on peut mieux comprendre sa vie. Et c'est des lettres absolument pas le style mielleux ou fleuri ou quoi que ce soit. Une femme forte, une femme décidée, directe, concrète. Et l'article se termine dans ce journal de Saïgon du 23 février 1921, le lendemain de sa mort. Ce repos, elle l'a trouvé parmi les élus. Et cette parole béatifiante, promesse du Christ, elle l'a entendue. Quiconque aura donné seulement à boire un verre d'eau froide à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Elle était née à Cherbourg le 24 octobre 1845 en France. Elle s'appelait Maria Cousin. Elle est devenue Mère Candide Cousin. Elle aurait pu garder son prénom de baptême. Mais pour l'époque, Candide, c'est pas mal. Elle était entre autres noviciée de la maison mère des sœurs de la charité, des sœurs de Saint-Paul de Chartres en 1863, 17 ans et demi seulement. Et encore novice, devenue sœur Candide, là, on la trouve en 1864 au bureau de bienfaisance qui était établi depuis 62 à Paris, place du commerce, dans les locaux de l'ancienne mairie de Grenelle. Là. Elle a 18 ans à ce moment-là. Les sœurs devaient visiter à domicile les indigents malades, devaient les panser aux besoins, préparer, distribuer, selon les ordonnances des médecins, les tisanes, les médicaments simples, donner du secours, en nature aussi, selon les prévisions là, des bureaux de bienfaisance. Déjà, à 18 ans, elle s'occupait de toutes sortes de choses comme ça. Et c'était pour une novice une excellente école. Hein. Elle y est restée 2 ans, jusqu'à sa première profession, qu'elle a faite le 2 septembre 1866. Elle avait 20 ans et 10 mois, le 2 septembre, hein, l'anniversaire du grand massacre à Paris, dont je vous ai déjà parlé. Lors de la Révolution française. Elle a passé également 2 ans, du 30 septembre 1866 au 7 septembre 1868, dans un hospice à Dreux, c'est à une trentaine de kilomètres de Chartres, qui avait une longue histoire, cet hospice. Il avait été fondé, imaginez, en 1170 par Robert, comte de Dreux. Il a d'abord été administré par des frères hospitaliers, puis avait été confié par ordonnance de François Ier en 1539, aux bourgeois de Dreux. Et finalement, bien, en 1712, un évêque avait installé là les sœurs de Saint-Maurice de Chartres. Elles se sont retirées au moment de la Révolution française. Et puis elles reparurent bientôt. Elles étaient sécularisées, mais elles ont travaillé là quand même. Et puis le 1er juin 1804, bien, on les a rappelées officiellement par un contrat. Et puis, les sœurs de charité, ils ont travaillé auprès des pauvres malades. Et puis, après un court séjour près de Chartres, où les sœurs tenaient l'école communale et visitaient les malades, sœur Candide fut désignée pour les missions par Mère Saint-Luc, supérieure générale. Elle est partie, toute jeune, le 17 mars 1869 pour la Cochinchine, où elle va travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, 52 ans. Elle y a été reçue par celle qu'elle a remplacée, Mère Benjamin, qui l'a affectée à la Sainte-Enfance de Saïgon. On rit souvent quand on entend ça, Sainte-Enfance. Qu'a-t-on à rire? C'est un très beau nom. L'enfance que l'on appelle sainte. ses petits-enfants abandonnés. Puis le Québec a pleuré en voyant les petites Chinoises maltraitées en Chine. Mais c'est la même chose que faisaient ses sœurs. Elles pleuraient à voir ses pauvres enfants abandonnés. Qu'a-t-on à rire de la sainte enfance? Que c'est qu'on a? C'est absolument insensé. Bon, je m'excuse, je devrais pas dire des choses comme ça. Bon. En tout cas, elle a fait ses vœux perpétuels. Elle avait 31 ans quand elle a fait ses vœux perpétuels. C'était en 1877. Elle écrit, je vous lis cette lettre, c'est une lettre d'une sœur de 31 ans qui écrit de façon intelligente. J'ai prononcé comme je le désirais mes vœux perpétuels. Depuis ce temps, j'éprouve. Imaginez, c'était en 1877, ça, à l'époque où tout était en petite dentelle et en petit... le style était tellement pénible à l'époque, hein, mais pas chez elle. Donc j'ai prononcé comme je le désirais mes vœux perpétuels. Depuis ce temps, j'éprouve, d'une manière plus particulière encore, le besoin de me donner à Dieu sans partage. Les bons désirs ne me manquent pas, mais la générosité me fait souvent défaut. Je vois que malgré mes nombreuses résistances à la grâce, Dieu en arrive où il veut avec moi. Il a soin de me mater par toutes sortes de souffrances. Aujourd'hui, je suis à bâbord et demain à tribord. Je ne trouve pas de terre ferme pour me soutenir. Il me faut fermer les yeux sur ce genre de conduite pour me conformer à sa volonté. C'est ce que je tâche de faire, tant bien que mal. Puis là, elle a un peu d'humour. J'ai donné du fil à retordre, bonne mère, elle écrit à la supérieure, puis elle l'appelle bonne mère. J'ai donné du fil à retordre, bonne mère. Il a fallu une bien grande patience pour me supporter. C'est depuis 2 ans seulement que j'ai mis sérieusement la main à l'œuvre. Il m'est presque impossible de reculer tant les reproches intérieurs sont aigus au plus petit écart. Elle a une conscience affinée de sainte. Aussi est-ce un peu pour cela que je n'étais pas pressé de vous donner de mes nouvelles. Ne vous tourmentez donc pas à mon sujet, bonne mère. J'aime la Cochinchine d'une manière toute particulière, bien qu'elle m'ait parfois maltraité. J'aurais du chagrin à la quitter. Toutefois, je ne me permettrai jamais une réflexion qui pût contrarier en rien les desseins de la divine providence. Je me remets plus que jamais entre les mains de mes supérieurs, afin qu'ils fassent de moi tout ce qu'ils voudront. J'espère, par ce moyen, expier toutes mes désobéissances passées et attirer la bénédiction du ciel sur mes travaux. En terminant, permettez-moi, ma bonne mère, de me recommander à vos prières. Agréez, bonne mère, l'assurance de mon profond respect, avec lequel j'ai l'honneur d'être, votre très humble fille, sœur Candide. Une femme forte. Mais elle allait bientôt quitter sa Cochinchine, et en 1878, l'année après ses vœux perpétuels, donc à 32 ans, à l'appel de Monseigneur Ozouf, 3 sœurs de Saint-Paul de Chartres avaient abordé sur l'île nord du Japon et planté leur tente à Hakodate. Et là, les missionnaires furent à ce point satisfaits du travail des sœurs de Saint-Paul de Chartres, dans ce milieu païen, que dès 2 ans plus tard, Monseigneur Ozouf a écrit à la fois à la supérieure générale et à Mère Benjamin, la supérieure provinciale à Saïgon, pour leur offrir une fondation à Tokyo sur le terrain de la mission. La ville n'était pas encore pleinement ouverte aux étrangers. Vous savez que le Japon s'est ouvert lentement aux étrangers à cette époque-là. Et Mère Saint-Luc, la supérieure générale, et Mère Benjamin, la supérieure de Saïgon, avaient toutes deux accepté. Mère Benjamin arriva de Saïgon en juin 81, donc, avec Sœur Candide, destinée être supérieure de la petite communauté directrice de l'école à Tokyo. Imaginez, c'était des femmes héroïques. On n'a pas idée aujourd'hui de tout ce qui pouvait se passer dans le cœur de ces femmes, qui étaient éduquées souvent dans un monde tellement ancien et victorien et tout ça, et qui deviennent des femmes fortes, courageuses, comme on en a peu aujourd'hui. Les pères, les religieux, avaient déjà fait construire leur maison dans le quartier de Kanda. Ils cédaient le terrain à la communauté des sœurs de Saint-Paul de Chartres, la propriété voisine étant à vendre, puis on l'a acheté, puis les premiers enfants qui se sont présentés comme orphelins furent logés dans une maison japonaise bientôt trop petite qu'il fallait construire. Mais l'activité de sœur Candide a duré peu de temps au Japon. En 84, au mois de mai, Mère Benjamin est morte, presque subitement, à 63 ans, ces femmes-là mouraient comme ça. Et Sœur Candide a été rappelée à Saïgon, donc dans le sud du Vietnam, comme supérieure de la Sainte Enfance, comme je l'avais dit plus tôt. Et du travail, là, l'y attendait. Les bâtiments étaient minés par des termites, par ces fourmis blanches, vous savez, qui creusent le bois, là. Et tout s'effondrait. Mais elle a réussi d'obtenir du conseil colonial, et puis par des lettres extrêmement directes et courageuses, avec beaucoup de fermeté, elle a obtenu de l'aide, et tout s'est fait, et heureusement, nous verrons tout à l'heure avec quelle fermeté cette sœur a accompli des choses merveilleuses dans ces régions d'Extrême-Orient. Mais je vous parle actuellement de Mère Candide Cousin, une religieuse de Saint-Paul de Chartres, qui en 1887 a été nommée supérieure des missions de cette communauté en Extrême-Orient. On a la réponse de Mère Candide à Mère Lacroix qui venait d'être nommée supérieure générale. Cette réponse, qu'elle écrit à 42 ans, est datée du 24 mars 1888, l'année suivante. Ça vaut la peine que ce soit lu, c'est pas long. Vous vous demandez peut-être, bonne mère, l'impression produite par la nomination que le bon maître vient de m'imposer. Je vous dirai en toute simplicité qu'elle m'a trouvé en paix et laissé fort calme, ne comptant jamais sur moi, mais attendant tout de Dieu seul, rien ne m'effraie. Je répète, attendant tout de Dieu seul, rien ne m'effraie. Si nous étions tous comme ça, on ne serait pas ces gens timides qui vont lire en avant là et qui tremblent de lire une épître, ou ces gens qui ont toujours peur de parler de leur foi, ou ces gens qui sont pleins de crainte, de ci et de ça. Attendant tout de Dieu seul, rien ne m'effraie. Elle continue. Je suis donc entièrement entre vos mains, prête à exécuter toutes les directives que vous me ferez l'honneur de me donner. Et là, j'aime bien ce qu'elle ajoute. Pour ma raideur de caractère, je tâcherai de l'extirper le plus possible. Je comprends que plus on est en charge, moins on devrait avoir de défauts. Il n'en est pas toujours ainsi. Cependant, avec le secours de Dieu, j'espère arriver à adoucir les choses. Elle est sympathique. J'aurais bien aimé la connaître. Une des premières questions donc à résoudre, c'était celle de l'admission au Navicet de Saïgon des jeunes filles qui étaient nées du mariage d'un Français et d'une Annamite, comme on disait dans mon jeune âge, c'est-à-dire les femmes de Cochinchine. En fait, c'était les Annamites, très, très, très sérieusement parlant, venaient du Tibet autrefois. Et ils étaient établis là depuis des siècles. Bon. Mère Benjamin avait dû supplier, elle, longtemps, celle qui est morte, là, pour obtenir l'ouverture du noviciat aux jeunes vietnamiennes, parce que ça se faisait pas comme ça à l'époque. C'était pas sûr. On craignait qu'il y en ait trop et que la congrégation perde son caractère européen. Une petite touche de racisme là-dedans, hein. Mais c'était pas... Vous verrez que elles ont changé d'avis vite, hein. Une lettre signée de Mère Candide en 1889 témoigne qu'il existe à ce sujet, d'ailleurs, une correspondance avec les supérieurs de Chartres, en France, là. Et les supérieurs, parce qu'il y avait des hommes là-dedans aussi, demandent un complément d'information.
La lettre continue. Le père chargé des enfants de Marie fait des vœux pour que la communauté s'ouvre à celle qui le désire. Il voit de très solides vocations qu'il cultive avec soin. J'ai voulu connaître la pensée des supérieurs locales à ce sujet. La chose leur a semblé toute naturelle, et elles m'ont fait remarquer que nous en avions déjà une au pensionnat qui rendait de grands services. Alors donc, elles vont accepter. Et puis, même s'ils sont inquiets, là, de, comme j'ai dit tout à l'heure, de maintenir l'identité de la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, cette espèce de pluralisme des races leur apparaissait comme une atteinte à l'unité. C'était un chemin difficile pour ces gens-là à l'époque. On n'avait pas les conceptions d'aujourd'hui, il faut comprendre. Hein. Mais elles vont accepter, puis elles vont les accepter au noviciat. Et elles vont les aimer énormément. Et je vous fais grâce de toute la correspondance qui s'est échangée à ce sujet, qui est assez intéressante, mais il y a un supérieur, dénommé le père Leguet, qui écrit, « Ma chère sœur supérieure, Je m'empresse de vous faire connaître le résultat de l'enquête relative à l'admission des jeunes métisses cochinchinoises au noviciat de Saïgon. Monseigneur ayant donné son avis, qui était le mien, et celui de votre bonne mère générale, nous aurions pu conclure ensemble cette affaire. Et toutefois, nous avons cru bon, devant Dieu, de vous demander votre avis et de faire intervenir ici les lumières et l'autorité de votre expérience. Et puis, on conclut donc que ce serait une excellente chose. À 49 ans, le 24 janvier 1895, notre mère, Candide Cousin, après avoir exposé à sa supérieure générale des questions de terrain à Tokyo, car il faut s'occuper de toutes sortes de choses quand on est une sœur en pays de mission, elles font tout. Elles s'occupent de construction, d'achat de terrain, d'évangélisation, d'aide au culte, de soins des malades, d'adoption d'enfants, de tout. C'est épouvantable, mais merveilleux. Alors donc, des questions de terrain à Tokyo, puis des questions aussi de supérieurs à Chemulpo. Et puis elle a remercié pour 4 sœurs qui vont arriver. Alors Mère Candide avoue, pour la première fois, qu'elle se trouve débordée par le travail. Elle dit, je vais vous demander un service, ma bonne mère. Depuis 10 ans que je suis de retour à Saïgon, je n'ai pu m'adjoindre une sœur pour m'aider dans mes écritures. Tout était écrit à la main, évidemment, hein? Je le rappelle pour les plus jeunes. Il n'y a pas de machine à écrire encore dans ce temps-là. Jeune encore, j'ai pu résister aux fatigues de la position. Mais les établissements se multipliant et les années s'accumulant sur ma tête, je ne me sens plus la force d'un pareil travail. On me recommande moins de travail de tête et plus d'exercice. Tant que j'y ai pu aller, je n'ai nullement tenu compte de ces prescriptions. Mais me sentant assez fatigué par moments, je suis obligé de me modérer. C'est pour cela que mes écritures sont un peu en souffrance. Vous voyez le style? Très simple, très direct. Elle espérait, cette sœur supérieure, se faire aider pendant les vacances scolaires, mais comme un inspecteur général doit venir de France visiter toutes les écoles d'Extrême-Orient, bien, la rentrée des classes cette année-là, en 1895, va se faire le 4 février au lieu du 1er mars, et ça va lui donner encore plus de travail. Le 14 mai 1895, donc de la même année, cette mère Candide relate les péripéties de son voyage par mer vers U. Et je vous lis ça, c'est une anecdote sympathique. J'ai pu, malgré bien des difficultés, arriver à la capitale de l'Anam, c'est-à-dire de la Cochinchine, U. En passant par la barre de Tuan Han, j'ai bien cru que nous y resterions. Oh, que j'ai remercié notre père Saint-Paul. Je vous rappelle, c'est les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Oh, que j'ai remercié notre père Saint-Paul d'avoir fait naufrage pour ses filles. Car, sans une protection visible de sa part, notre barque aurait sombré plus d'une fois dans le petit parcours que nous avions à faire du grand courrier au bord du rivage. J'avais pris avec moi comme compagne de voyage ma sœur Suzanne, supérieure de Tandine, Saïgon. Nous étions bien silencieuses au milieu de nos 7 rameurs anamites, très occupés à couper les grosses vagues qui tentaient de submerger notre barque et branler dans tous les sens. Je ne cessais de réciter des De Profundis. Je vous rappelle, pour les plus jeunes, le De Profundis, ça veut dire « du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur ». C'était une prière qu'on récitait en latin autrefois. Un psaume. « Oh, que c'est effrayant, ajoute cette sœur, de se trouver dans une telle immensité agitée par la tourmente. Le diable avait sans doute bien envie d'assister à nos obsèques avant notre arrivée à Hué, mais il ne fut pas satisfait. Elle a de l'humour devant la mort, hein? Elle est sympathique. Elle ajoute, il était 7 heures du soir quand nous quittâmes notre chère barque pour escalader lestement les dunes de Tuan Han. En un instant, tous les soucis avaient disparu. Nos sœurs étaient là, et nous les embrassions. Que c'est beau, hein, la fraternité des sœurs dans ces communautés. La fraternité. Il y a quelque chose, j'ai déjà été en communauté, c'est extraordinaire. Hein? Il y a un sens de l'appartenance qui fait que des gens très différents de nous, on les aime plus qu'un quiconque, hein? Parce qu'on partage un même idéal, parce qu'on appartient à la même famille, la même tradition. C'est fort dans la vie, ça. C'est très fort. Hein? Alors donc, notre mère Candide Cousin accomplit 1000 choses. Elle parcourt l'Asie. En 1898, elle est à Hong Kong. dont il est souvent question ces jours-ci. C'est l'an prochain, je crois, que Hong Kong va faire partie de la Chine. Les serres ne s'adaptent pas toujours dès leur arrivée de France au climat, au milieu là-bas. Il faut faire de toutes sortes de changements. Il faut y en renvoyer beaucoup qui tombent malades. Mère Candide Cousin a été à Bangkok aussi, voir l'hôpital, où elle doit envoyer prochainement une 7e sœur. Manquait pas trop de vocation à l'époque. Et le 24 octobre 1898, elle écrit au père Legay, dont il a été question tout à l'heure, « Monseigneur de Pierre vient de mourir, c'est un terrassé lui aussi par les maladies de la région, c'était son évêque. » Elle écrit, il y a environ 3 semaines, Monseigneur partait pour l'intérieur avec l'intention de prêcher une retraite aux sœurs indigènes. Et oui, il y en avait pas mal, là. Puis de donner la confirmation. Et à peine entré dans la chaloupe, une indisposition très sérieuse l'a forcé à descendre chez un père annamite, car il y avait aussi des prêtres d'origine annamite ou vietnamienne, dans une petite chrétienté. Le père Gernot, provicaire, dit-elle, averti de ce qui se passait, est venu au devant de sa grandeur, on disait ça, sa grandeur pour un évêque, il l'amena dans sa maison, espérant après quelques jours de repos, il pourrait reprendre ses activités, il n'en fut rien. On dut ramener Monseigneur, le Monseigneur de Pierre, à Saïgon, afin de lui prodiguer tous les soins que son état de santé réclamait. Le docteur diagnostiqua une forte pleurésie, puis le cœur fléchit, et les symptômes de fièvre typhoïde se déclarèrent. On priait et on se persuadait que la forte constitution de Monseigneur triompherait de tout cela. Il n'en fut rien. Et malgré les soins empressés, la mort vint le 20 octobre à 3 heures du soir. 2 de ses zélés missionnaires le suivirent dans la tombe. Je vous lis ça, c'est pour vous montrer le style direct qu'a cette sœur. Elle parle de la mort de cet évêque sans fioriture. C'est direct, c'est concret. Et elle parle des 2 autres missionnaires qui sont morts aussi de cette fièvre, la typhoïde, qui fauchait tellement de missionnaires à l'époque. Elle revoit Saïgon, Mère Candide, en 1906. Tout y est en ordre. Mais la nouvelle mission du Laos a profité de son absence pour demander en France ce dont elle avait besoin. Les missions s'étendent. Elle écrit, en apprenant les riches envois que vous avez faits au Laos, « Ma bonne mère, j'ai été peinée. Je ne comprends pas que nos sœurs aient le courage de vous imposer de semblables charges, alors que c'est la mission qui doit tout leur fournir, puisqu'il fut convenu que je ne demanderai que 100 francs par an pour chaque sœur. » Pas beaucoup, hein? Ces femmes-là se sacrifiaient dans la pauvreté. En 1906, donc, le 10 avril, 3 sœurs des Philippines, car il y avait aussi des sœurs de Saint-Paul de Chartres aux Philippines, je vous l'ai mentionné au début, doivent partir en France pour y être soignées. Mère Candide Cousin a pu envoyer pour Culion sœur Thérèse, qui vient de Shanghai, en Chine, et qui connaît l'anglais, le français, le chinois, le portugais et l'espagnol. Elle a aussi pu constituer une communauté de sœurs qui partiront de Saïgon pour se rendre à Manille, dans les Philippines, puis Cadiz, si vivement désiré par l'archevêque. Mais, comme tout ne peut aller bien, elle constate qu'on s'est trompé sur l'évaluation de sœur Marie-Louise, supérieure à l'hôpital de Saint-Paul à Manille. Elle a beaucoup de qualités extérieures, mais plusieurs faits prouvent qu'elle manque de jugement dans la conduite d'une maison. Ça prend énormément de qualité pour accomplir de telles tâches. Alors, Mère Candide Cousin est bien à Saïgon, mais son esprit et son cœur sont toujours occupés par toutes ces jeunes fondations, si audacieuses mais si fragiles. Et les évêques regardent de près comment agissent les sœurs dans le milieu qu'elles apprennent seulement à connaître. Alors, il y a toutes sortes d'événements qui surgissent. Elle est prise dans 1000 problèmes. À Culion, que je vous ai mentionné, elles ont en février 1908 1200 lépreux. Elles en attendent 500 autres. Et la sœur, sœur Sidonie, qui s'en occupe, est retenue au lit par une maladie à la jambe, une érysipèle. Quant à sœur Thérèse qui l'assiste, elle était en traitement à Manille. Que de problèmes. Et puis à l'appel continu des évêques des Philippines pour avoir des sœurs. Mais des sœurs qui parlent anglais. Or, c'est une congrégation française, ça devient compliqué. Or, les maladies, le caractère des sœurs, parce que les sœurs sont pas toutes parfaites, hein. Leurs difficultés d'adaptation aussi, au milieu, puis au clergé aussi, il faut s'adapter aux prêtres, c'est pas toujours facile, aux évêques. Tout ça, tous ces problèmes tombent sur la table, le bureau de Mère Candide Cousin. Elle écrit un jour à Mère Isaïe, qui a succédé à Mère Lacroix comme supérieure en France. Et puis, les affaires du territoire français de la Cochinchine, du Vietnam, ne sont pas terminées. Il y a la subvention de l'hôpital indigène de Vinh Long, qui vient d'être supprimée par le gouvernement, ainsi que le traitement des deux sœurs de l'hôpital. Les malades sont évacués chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres de Mito. Les incurables sont acceptés par l'administration à Kulawang. Mais voilà, les sœurs vont quitter Kokwan, un autre endroit où elles sont, où une infirmière est arrivée de France. Puis là, elle écrit, nos sœurs vont commencer leur nouveau service dans les pavillons de la Sainte-Enfance à Saïgon. Il a été fait une vente fictive en règle par une société très respectable dont fait partie Monseigneur, afin que s'il y avait à craindre pour les bâtiments de la Sainte-Enfance, cette partie fût à l'abri. Alors elle doit défendre les bâtiments. Elle vend à un moment donné une rizière. Elle s'occupe de toutes sortes de choses. C'est pas possible. Quand on lit tout ça, on se dit, nous qui sommes accablés de désespoir devant les petites choses qu'on a à faire, elle continue. Toujours, toujours. La municipalité de Saïgon, en 1909, demande une sœur qui s'adjoindrait au personnel de sa clinique très fréquentée. Il y a la clinique du docteur Angier, un Français qui désemplit pas. Ça va devenir plus tard l'hôpital Saint-Paul, Saint-Paul de Chartres. Mère Candide pense partir dans le courant de décembre aux Philippines pour y ouvrir le noviciat. En effet, elle loue en 1910 une maison à Manille pour y regrouper les postulantes, là, sous la direction de sœur Jeanne de Saint-Louis. Elle revient en 1912 visiter ses sœurs à Iloilo. Elle les trouve malades et quelque peu découragées, sans argent, sans matériel, sans construction adéquate. Elles étaient supposées ouvrir un hôpital. Et dans ces conditions, Mère Candide décide de retirer ses sœurs. Mais elle se heurte à l'opposition de Monseigneur Doherty, qui s'est fait pèlerin pour quêter. Et le 30 juillet 1915, il bénissait la première pierre d'un véritable hôpital. Vous savez, c'est grâce à la générosité des laïcs, des gens qui ont un peu d'argent, que toutes ces femmes, tous ces évêques, tous ces prêtres peuvent faire des travaux fantastiques. Ils ont le courage, le don d'eux-mêmes. Mais comment arriver sans argent? Comment arriver à construire des bâtiments et à ouvrir tous ces dispensaires, à s'occuper de tous ces pauvres, si nous ne sommes pas généreux? C'est le temps du carême et les évêques nous invitent à être généreux. Plutôt que de pratiquer des jeûnes intempestifs, de se flageller, de pratiquer des pénitences comme on faisait autrefois, pourquoi ne pas pratiquer la générosité, hein? La générosité. En 1914, Mère Candide a été libérée de la charge directe des communautés des Philippines. Elles étaient constituées en province. Et là, on va nommer une provinciale là-bas. Les lettres se font rares. Elle travaille sans cesse. Elle ne cesse de s'occuper de tout. Elle est phénoménale. En 1921, elle écrit, « Je ne pense pas vous écrire souvent maintenant, c'est peut-être la dernière fois, je suis de plus en plus fatigué. Dissimule pas mon état. D'ailleurs, mon sacrifice est fait, il est facile quand on a l'habitude de l'abandon. Hein? Mon sacrifice est fait, il est facile quand on a l'habitude de l'abandon. » Et alors, il termine cette lettre en disant, « Je dois, ma mère, vous faire observer que des constructions à Dalat, à 1800 mètres d'altitude, sont beaucoup plus onéreuses qu'en pays plat. Mais quel beau coin où les santé se remettent si facilement que bien des voyages en France seront épargnés. Alors elle cherche par tous les moyens à diriger tout ça, penser à tout. Elle écrit aussi qu'un établissement est bien à plaindre. On accepte la sainte volonté de Dieu, mais il y a de rudes moments à passer pour les pauvres sœurs. Avant de faire mes adieux aux maisons que j'ai tant aimées, permettez-moi, ma bonne mère, de solliciter une dernière faveur pour la maison au Siam. Les sœurs s'y découragent parce que, avec leurs 260 élèves, elles manquent vraiment d'enseignantes de qualité, tandis que une autre maison, Saint-Joseph, en a plutôt trop, mais ne veut lâcher personne. Elle dit, cet égoïsme me fait mal. Je me demande ce qu'elles deviendront, ma bonne mère, si vous n'allez pas à leur secours. Alors elle demande, elle réclame. Elle n'arrête pas. Elle termine une lettre. Nous venons d'avoir une retraite superbe. Nos sœurs sont toutes reparties enthousiasmées avec dans leur maison. Mère Teresa, c'est pas notre mère Teresa, c'est une mère Teresa de l'époque, évidemment, a dû se dévouer seule. J'étais incapable de lui rendre aucun service. Elle faiblit. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ma pauvre lettre écrite à moitié couchée. Je suis tellement enflé que je ne puis plus marcher. Il me faut jour et nuit rester allongé sur un fauteuil long. Comme le cœur nage dans l'eau et qu'un accident est vite arrivé, j'ai été administré le jour de la Septuagésime. Je suis donc là, attendant le signal du Seigneur. La Septuagésime, c'est au début du carême. Hein? Le Seigneur est venu le 22 février 1921, vers 7h30 du soir. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Et du témoignage d'une sœur centenaire qui s'appelait sœur Emmanuel. Le visage de mère Candide Cousin, sœur de Saint-Paul de Chartres, est devenu aussitôt transparent et lumineux, tel que l'on ne pouvait en détacher son regard. La sœur centenaire, sœur Emmanuel, a vécu 15 ans près de mère Candide à la Sainte Enfance de Saïgon. Elle retient ses yeux bleus doublés de lunettes bleues qui voilaient l'expression de son regard. Mère Candide était très énergique, mais très aimable dans sa façon de parler ou d'agir. Surtout, elle savait faire confiance. À la maison, elle la trouvait assise au bout de la table devant son écritoire, commençant une lettre qu'elle achèverait à peine le soir, tant elle était constamment dérangée. Elle ne se plaisait pas aux longues conférences. Mais quand elle vous apercevait passant près d'elle alors qu'elle ne vous avait pas rencontré depuis longtemps, elle vous appelait. Et nous causions très simplement. Elle était toute pleine d'intérêt pour notre vie et nos problèmes. Elle profitait du temps de ses voyages pour se recueillir et prier dans sa cabine hors du lieu des distractions. Elle vivait en rapport avec les âmes du purgatoire, pour qui elle avait une grande dévotion. Pauvre, dans le sens profond du terme, elle désirait passer inaperçue, n'acceptant aucune fête qui leur est mise en évidence, ne prenant jamais de vacances autres que les séjours obligatoires dans un milieu moins humide, comme au Cap Saint-Jacques ou à Dalate. Ces nombreuses fondations avaient tout un fondement unique d'âme pauvreté. On connaissait les dimensions de la petite caisse contenant l'indispensable pour commencer. Le superflu viendrait bien assez vite. Il y a une sœur Irène, qui a écrit ses impressions en 1967 sur un simple papier d'écolier. Elle dit, « Je connus bien Mère Candide de 1918 à 1921 et je la regarde comme une sainte. » Après son retour en France en avril ou mai 1918, elle me fit appeler. Elle désirait me connaître et me donner quelques conseils sur la vie religieuse et le comportement avec les indigènes. Et elle me dit en particulier de ne jamais me plaindre, ni de la chaleur ou de la bourbouille, de la maladie ou des odeurs qui pouvaient m'incommoder. Tout accepter en vue du salut des âmes. Elle était rigide sur le plan de la pauvreté. Comme je devais avoir mon changement de la Sainte Enfance, Mère Candide me fait appeler pour me donner mon obédience et là, sur sa chaise longue, 15 jours avant sa mort, elle me dit, je vous envoie au Laos, en Asie ça, en Extrême-Orient le Laos, je vous envoie au Laos car vous apprenez bien les langues. Me voilà le cœur brisé, pleurant. Je pensais qu'elle voulait se débarrasser de moi et tout d'un coup, sans que je ne dise rien, elle me dit, Sœur Irène, Ce n'est pas pour me débarrasser de vous que je vous envoie au Laos. Mais j'ai besoin de quelqu'un sur qui je puisse compter. Elle ne perdait jamais la présence de Dieu. Je me souviens encore, sur sa chaise longue, toujours, elle était mourante. Une supérieure s'avise de lui suggérer des oraisons jaculatoires. Une fois, deux fois, à la troisième fois, écoutez bien ça, Mère Candide Cousin pria la sœur de la laisser tranquille. Elle était mieux dans le silence, en compagnie de son Seigneur. Cela se passait entre le 2 et le 3 février et le 9 février 1921. Le 9, je quittais Saïgon. Et notre révérende mère est décédée le 22 février 1921, vers 7h30 du soir.